Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de la fête de Sukkot. Bien, depuis deux semaines qu'on est dans les fêtes, Rosh Hashanah, ensuite Kippour. Et là, on est à la veille de Sukkot, qui va durer 7 jours. Et encore, la semaine prochaine, on va terminer la fête de Sukkot avec une autre fête, que c'est la fête de Shmini Atzeret, qu'on appelle aussi Simchat Torah. Alors, pour le moment, on est dans la troisième étape, dans cette série de fêtes, si on le coupe ainsi, parce qu'il y a plusieurs manières comment on le coupe. Il y avait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. La mitzvah des jours, c'est de sonner le shofar, et avec tout ce qui entoure. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. La mitzvah des jours, c'était de jeûner. Et avec tout ce qui tourne autour, la prière, d'autres choses, mais l'idée des jours, c'est jeûner. On arrive maintenant à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête où les mitzvahs des jours, donc les devoirs des jours, c'est s'asseoir dans la soukha. Soukha, c'est une cabane. Ça veut dire sortir de chez soi et construire. En fait, on construit avant, à la limite, on peut construire pendant, mais pendant la fête de Sukkot, on doit faire les choses importantes dans la soukha. On mange dans la soukha. En vérité, on dort dans la soukha, mais c'est vrai que ça dépend des traditions. Chez nous, chez Chabad, on ne dort pas dans la soukha, même des endroits, dans les endroits qui ne fait pas froid, et ce n'est pas désagréable de dormir dans la soukha, mais c'est un sujet à part. Mais normalement, selon la loi juive, il faut manger et dormir dans la soukha. En vérité, il faut faire tout ce qu'on fait habituellement à la maison, on le fait dans la soukha. Sauf des choses qui nous dérangent lorsqu'on est dans la soukha. À ce moment-là, on fait odeur de la soukha. Donc ça, c'est la mitzvah des jours. Et bien sûr qu'il y a l'oulav, donc les 4 espèces qu'on prend en même temps. Et il vaut mieux de les prendre dans la soukha, mais on prend aussi, et surtout, dans les synagogues. Donc c'est 4 espèces qu'on va revenir à ça. Et aussi, il y a la mitzvah des jours. Aussi, donc, c'est d'être joyeux, tout simplement. C'est un devoir de jour d'être joyeux. Si il faut toujours être joyeux dans le système juif, pour plusieurs raisons, parce que il faut savoir qu'on est là pour un but, qu'on n'est pas là dans les jungles. En fait, il y a plusieurs raisons. Il manque sauf à ce machot. Il y a 7 raisons normalement d'être joyeux. Mais déjà qu'on est la créature de Dieu, que Dieu s'occupe de nous, on n'est pas tout seul. En fait, il y a beaucoup d'idées autour de ça, mais en tout cas, dans l'esprit juif, il faut être toujours joyeux. Et ce qu'il faut, et ce qu'on fait, c'est avec de la joie. C'est pas facile, parce que la joie, c'est pas quelque chose qu'on commande par télécommande, c'est quelque chose qui dépend de la situation intérieure. Et pourtant, c'est un devoir d'être joyeux. Il y a même une blague dans une histoire qu'on raconte qu'il y avait un enfant, un enfant là, qui n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail. Donc c'était à l'époque où les enfants, ils ont parfois été obligés de travailler pour gagner quelque chose. Donc il y avait quelqu'un qui l'a pris chez lui, il s'occupait bien de lui, il l'a aidé à vendre. Donc, il était un vendeur. Son patron était vendeur. Il a dormi chez lui, il a mangé chez lui. Mais son rôle était d'attirer l'attention des gens qui passent dans la rue pour l'attirer vers le magasin. Donc, ce qu'il a fait, il a chanté à côté du magasin. Les gens s'intéressaient. Et donc, après, une fois qu'ils ont arrêté là, ils ont commencé à s'intéresser à ce que le magasin et dans le magasin en vend. Donc ça, c'était son habitude, tous les jours, tous les jours. Donc il a chanté, il a dansé à côté du magasin. Et il avait, comme ça, il attirait les clients. Mais pas tous les jours, on a de bonne humeur. Il y avait un petit dispute entre son patron et lui. Donc, elle avait du mal à chanter. Et le patron n'était pas content qu'il ne danse pas, qu'il ne chante pas, en fait. Donc, il a donné un gifle. Et l'autre, il était très, très vexé, donc il a pleuré. Et maintenant, le patron lui demande de continuer à chanter, de continuer à danser. Donc, il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. Mais en pleurant, il a fait, il a dit à tout le monde, chantez, Freilacher. Freilacher, ça veut dire, on y dit, c'est en allemand. Encore plus joyeux, encore plus joyeux. Mais lui-même, il était triste. Parce qu'on ne peut pas... Le chant, normalement, et le danse, c'est ça exprime ce que se trouve, ce que se passe à notre intérieur. Et on ne peut pas être joyeux si on n'est pas joyeux. Donc la joie, c'est normalement, ce n'est pas un devoir. La joie, normalement, c'est un résultat de quelque chose d'important. Dans le système juif, on nous demande d'être toujours joyeux. Donc il faut dire qu'on nous demande de mettre en condition pour être joyeux. Et on a la possibilité, comme il est marqué, de différents endroits. Donc alors, dans le système juif, on est toujours joyeux. Et même lorsqu'on est triste, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose hors commun. Bien. Et alors ça, c'est toute l'année. Mais il y a une période, donc les périodes de fêtes, et surtout la fête de Sukkot, qui s'appelle la fête de la joie. Dans la prière, on va dire « Zman Simchateinu », la période de notre joie. Alors, dans cette période, en plus du fait qu'on est toujours joyeux, il faut rajouter, ça veut dire qu'il faut rajouter dans la joie. Et les lois juives nous demandent, la loi juive nous demande de bien boire du vin, en fait, avec modération, bien sûr, mais ça veut dire que c'est puisque le joueur réjouit, donc même celui qui n'a pas l'habitude de boire tous les jours, alors tous les jours de la fête, on boit un verre de vin. Pour les femmes, on a l'habitude, donc, comme ça il est marqué dans la loi juive, qu'elles achètent de bons habits, de nouvelles habits. Et pour les enfants, donc on les réjouit avec leurs choses à eux. Donc ça c'est la fête de Sukkot, donc comme on a dit qu'il y a trois choses. Il y a le fait de manger dans la soukha, donc ces cabanes, manger et boire, et même passer le temps. Mais on parle surtout de manger, mais en vérité, ce n'est pas seulement manger. Il y a le devoir de faire les bénédictions et prendre les quatre espèces, quelque part basculer les quatre espèces, comme on va voir après. Et il y a l'idée d'être joyeux. Et ensuite, il y a le dernier fête, que ça va se passer cette fois-ci, lundi soir, mardi et mercredi dans une semaine. Où le summum de cette fête, c'est la joie avec la Torah, où on danse avec la Torah. Ça va être mardi soir et mercredi, où tout le monde monte à la Torah, etc. Et donc, quand on fait le tour de ces fêtes. Mais si on revient un petit peu aux fêtes, donc, on a passé déjà, comme on a dit, Rosh Hashanah, Kippour. Ensuite, on est à la deuxième partie de ces fêtes, que c'est Sukkot, et ensuite Simchat Torah. Dans la Torah, on ne voit pas de rapport entre ces quatre fêtes. Alors, comme on a vu avant, que Rosh Hashanah, au niveau historique, correspond à la création du monde, plus particulièrement à la création de l'homme et de la femme, ces deux êtres à part, et deux idées à part, comme on a déjà vu avant. Et ensuite, le premier jour de jugement, où l'homme il a mangé des fruits qu'il ne devrait pas manger, à partir il a bousculé le monde, que le monde il s'est déstabilisé à ce moment-là. Dieu il a jugé l'homme et la première fois. À partir de là, c'est devenu aussi le jour de la justice. Donc on a quelque chose ici. On a ici le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où la création se renouvelle. Il y a le fait que l'homme il a été jugé. Et ensuite, quelques jours après, on a le jour de Kippour. Au niveau historique, c'était la première fois après la faute de Vaudor qu'Hachem l'a pardonné avec joie au peuple juif. Et à ce moment-là, c'est devenu le jour de grand pardon. Donc on a deux fêtes qui se soient, qui se suivent et qu'ils ont un lien avec l'un avec l'autre, le jour de jugement d'un côté, le jour de pardon de l'autre côté, et il y a bien sûr d'autres détails. Bien, alors ça c'est en général les deux fêtes. Ensuite, on arrive à cette fête de Sukkot qu'on mange dans la cabane. Quel rapport avec cette période? Apparemment, il n'y a pas de rapport. Et c'est vrai que dans la Torah, il n'est pas marqué clairement un rapport, à tel point que même dans le Talmud, il est marqué, et on peut comprendre qu'il n'y a pas de rapport. Ces deux fêtes qui sont mises ici. Plutôt, la fête de Sukkot est liée avec la fête de la sortie de l'Égypte, parce que ce qui correspond et ce qui symbolise la Sukkah, et d'ailleurs, lorsqu'on est assis dans la Sukkah, il faut penser à ça, que ça nous rappelle les protections divines sur le peuple juif. Lorsqu'ils ont été dans le désert pendant 40 années, ils ont été protégés par des Sukkot. Sukkot, qu'est-ce que c'est Sukkot? Soit tout simplement ils ont eu des habitations, soit on suit plutôt cette idée qu'ils ont été protégés par un climat, ce qu'on appelle les nuées, qui les ont entourés, donc il faisait bon le jour, la nuit, ni froid, ni chaud, même dans le désert. Bien, autour de cette idée. Donc, alors, l'idée de Sukkot, c'est remercier Dieu pour la protection qu'il nous a protégés pendant les 40 années qu'on était dans le désert. Donc, c'est une fête qui est plutôt liée avec la suite de la fête de Pessah. Donc, pourquoi on le fait maintenant? Alors, le Talmud nous dit que, parce que si on aurait fait à la suite de Pessah, on n'aurait pas remarqué qu'on le fait pour la mitzvah, pour le devoir. Parce que c'est une habitude, après, dans cette période de Pessah, surtout dans la région d'Israël, où il commence à faire chaud, donc les gens ils vont dans les cabanes, en tout cas ça c'était à l'époque, ils vont dans l'endroit où il fait plus frais. Donc on ne va pas remarquer, mais dans cette période où les gens déjà rentrent chez eux, après une période d'été, et quand même, c'est là où on construit la cabane, c'est là où on soit à la cabane, là on le fait, on le sort, pardon, là on le sent, c'est qu'on le fait pour le but, pour la mitzvah, pour le devoir que Dieu nous a demandé, et pas parce qu'il fait plus beau dans la soukha. Ça c'est la raison qu'il est marqué dans le Talmud. Donc il n'y a pas de rapport visible entre Rosh Hashanah Kippour d'un côté et Sukkot de l'autre côté. On ne va pas parler aujourd'hui de la fin de la fête, c'est déjà une autre idée, on va voir la prochaine fois. Mais pour le moment, Sukkot, quel rapport entre Sukkot et Rosh Hashanah Kippour? Alors en vérité, toute la Torah a été donnée de telle manière que Dieu il nous a donné la Torah, mais à côté de ça, il nous a donné beaucoup de devoirs à faire pour comprendre la Torah. Et ça, c'était le travail qui était fait pendant des générations avec les sages de Talmud, ou bien avant, ou bien après. C'est tout un travail de comprendre la Torah. Parce que la Torah, comme elle est, on peut parfois ne pas comprendre, on peut parfois comprendre mal, parce qu'il y a des règles comment on comprend la Torah. Il y a même des choses, il y a des lois qui sont marquées sur ça, que c'est il y a beaucoup de lois, par exemple Shabbat, il y a beaucoup de lois de Shabbat, mais ce qui est marqué dans la Torah par rapport à Shabbat est tout petit. Et on a du mal à voir le rapport entre ce qui est marqué et la façon comment on l'applique. Bien sûr que le Talmud nous explique comment ça marche, mais pour la personne qui lit, tout simplement, il ne voit pas quel rapport entre ce qui est marqué dans la Torah et ce qui est marqué. Comment on les pratique. Mais ça, c'était un travail de long temps, de longues années, où on avait un devoir pour comprendre la Torah, donc on arrivait à ce résultat. C'est vrai aussi pour Sukkot et pour les autres choses, les rapports, ce qu'on sait aujourd'hui, on ne savait pas au début. Et encore un exemple comme notre monde, parce que le monde et la Torah sont liés. Notre monde à nous, le monde à nous, ressemble pas du tout au monde qui était au début de sa création. Et pourtant, Dieu il a tout créé, mais il a laissé à l'homme de développer, de comprendre le monde. Et là aussi, la Torah aussi, Dieu il a laissé à l'homme de comprendre, de commenter la Torah, arriver à comprendre, à arriver à le résultat de ce que Dieu il voulait de cette Torah. Donc, alors, l'idée de l'origine et l'idée de ce qu'on voit aujourd'hui, on comprend mieux la Torah, de certaines manières, on comprend mieux de ce qu'on a compris avant. Donc, aujourd'hui, on voit le rapport entre Rosh Hashanah et Kippour d'un côté, et Sukkot, et Shmini Atzeret et Simchat Torah de l'autre côté. Mais on va parler, comme on a dit, surtout sur la fête de Sukkot. Alors, la fête de Sukkot donne la vision kabbalistique. Et pas seulement. On est au début de l'année. Au début de l'année, tout ce qu'on va recevoir cette année était mis en place déjà Rosh Hashanah. C'est comme parfois où vous attendez un frais bancaire. Alors, déjà, il y a toute une préparation pour avoir ces frais bancaires. Mais une fois, même si que, vous l'avez eu d'une façon. Vous avez l'accord, mais ce n'est pas évident que vous allez le recevoir. Il manque encore beaucoup de choses pour arriver à recevoir. Même si qu'il y a l'accord, parfois ça prend du temps jusqu'à le moment où ça se réalise. Quelque part, on considère, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça peut être un exemple de quelque chose, qu'il y a des processus entre le moment où les choses ont été décidées et le moment où les choses vont se réaliser. Et parfois, ce qui a été décidé ne va pas être réalisé si on ne va pas faire certaines choses qui sont nécessaires. J'ai entendu quelqu'un, d'ailleurs, c'est intéressant, qui racontait la semaine dernière, dans son cours, il raconte il fait des cours par Internet, mais il a des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent. Et donc, il a tout un projet. Bien, il avait besoin de financer ça. Et il y avait quelqu'un qui a envoyé il y a quelques mois les fonds pour ça, pour aider ce but. Et pourtant, il ne reçoit pas. Ça arrivait de l'étranger, donc vers Israël. Mais ce n'est pas arrivé. On ne comprend pas pourquoi ce n'est pas arrivé. Parce que d'un côté, c'est parti, de l'autre côté, on ne sait pas où ça se trouve. En fait, ça durait quelques temps jusqu'à le moment où ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible que on ne le trouve pas. Donc, c'est parti, mais c'est pas arrivé. Je ne connais pas trop les détails, mais il y avait quelque chose, comme ici on l'appelle, ça se trouve dans les tuyaux, mais pourtant, ça n'est pas arrivé. Donc, il a décidé qu'au niveau spirituel, il doit arranger quelque chose que lui, il n'est pas bon. Et s'il va arranger, alors, certainement que. C'est comme ça que va la vision juive. Parfois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye d'arranger notre comportement. Donc, ce jour, je pense que c'était il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Donc, il trouve une personne. Il y avait un homme dans la communauté juive. Il y a une habitude qu'après un décès de quelqu'un, ses enfants disent Kaddish après lui. C'est une sorte de prière qu'on dit 3 fois par jour dans les 3 prières du jour, on les dit. Et si la personne n'avait pas des enfants, ou bien si les enfants, pour une raison ou pour une autre, ils ne le font pas, alors on paye pour quelqu'un qu'il le fasse. Donc lui, il a payé à quelqu'un qu'il fasse le Kaddish pour telle et telle personne qui faisait partie de sa communauté. Et donc tout va bien. Il ne savait pas ce qui se passe, il savait qu'il a payé. Et il savait que l'autre, il fait Kaddish. Mais ce jour, donc il y a quelque temps, il trouve ce monsieur, il lui dit, tu dis toujours Kaddish, non? J'ai arrêté, je fais, mais j'ai compris qu'il faut faire qu'à moi. Bien, alors là, il a rangé ça. Et le lendemain, d'un coup, l'argent arrive. Ça, c'est une réaction un petit peu juive, comme ça, comme on a dit tout à l'heure, que quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau matériel, on essaye bien sûr d'arranger au niveau spirituel, au niveau matériel, mais on essaye aussi d'arranger au niveau spirituel. En tout cas, pour revenir à notre sujet, il y a des choses qui étaient décidées le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour comme. On l'appelle Rosh, la tête de l'année. La tête, ça veut dire, comme son nom, la tête. La tête, ça veut dire, comme dans la tête, il y a tout ce qui se passe dans le corps, se passe par la tête. Et toute l'affluence, tout ce que quelque part, la tête, pas seulement quelque part, la tête, il dirige le corps, et la vitalité passe par la tête. Là aussi, la vitalité de l'année passe par Rosh Hashanah. Mais même si ça passait par Rosh Hashanah, donc d'une part, c'est la décision divine que cette année, il y aura telle et telle chose pour telle et telle personne, etc., pour le monde entier ou pour les individus. Mais on doit passer quand même par Kippour. Comme dans ce système, que même s'il y avait l'accord principal, en principe, mais il faut passer par d'autres schémas. Mais ensuite, les fêtes, selon la Kabbale, les fêtes de Sukkot, c'est le moment où ils réalisent vraiment ce qui a été décidé Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire que c'est le moment où on tire sur nous, on réalise, on matérialise la décision qui a été donnée Rosh Hashanah. Il y a dans Tehilim, dans le psaume, il y a quelque chose qui nous éclaire un peu sur cette idée de Rosh Hashanah et sur les relations entre Rosh Hashanah et Kippour d'un côté et Sukkot de l'autre côté. Il est marqué dans ce psaume, qu'il est marqué cette phrase Tikou bachodesh shofar, bakesel yom chaginu. Sonnez le shofar au kese, on va voir qu'est-ce que c'est kese. Sonnez le shofar en jour de. En nouveau jour, ça veut dire en jour de. Comment dire, en jour de l'an, mais ici on parle plutôt de mois, le jour du mois. Sonnez le shofar au jour du mois, le kese de notre fête. C'est un petit peu, c'est des mots un peu compliqués à comprendre. Il y a des différentes explications, mais parmi les explications, c'est que on sait que la vie juive tourne autour de la lune. Ça veut dire le mois juif, ça commence par la lune et ça termine par la lune. Le mois juif, donc, il y a d'autres qui font le même système différemment. Donc, le mois juif, donc, c'est lorsque on est capable de voir la nouvelle lune, alors à ce moment-là, on considère que c'est le nouveau mois. Et ça dure, comme ça, la lune, on la voit grandir jusqu'à le 15 du mois où elle est entière. Et ensuite, elle commence à diminuer nos yeux jusqu'à la fin du mois. Ça dure à peu près 29 jours et demi, quelques poussières. Et ça dépend, ça change parfois d'un mois à l'autre pour de différentes raisons. Mais en tout cas, c'est en grand, c'est 29 jours et demi et quelques poussières. Et donc, c'est ça le système des mois juifs. Donc, alors, les mois, les grands fêtes comme Pesach et Shavuot, comme Pesach et Sukkot tombent en 15 du mois, là où la lune est pleine. C'est très symbolique. La lune est pleine, ça veut dire que la vie est pleine. C'est pour ça que c'est la fête. Donc la fête, il y a des périodes difficiles dans la vie, mais la période de la fête, c'est une période où la vie est pleine. C'est pour ça que ces victoires, ces choses magnifiques se sont passées les 15 du mois, parce que les 15 du mois représentent cette notion de plénitude. Par contre, le début du mois, ça montre quelque chose d'une renaissance, mais cette renaissance, elle n'est pas visible. On la voit pas forcément. Il y a des lois, comment on le voit à la lune, comment il faut considérer la lune, mais on la voit pas forcément. Il est possible qu'il y a une personne qui le voit parce qu'elle est tellement petite, et il faut avoir des conditions. Et lui, il témoigne. Et à ce moment-là, on prend son témoignage avec quelqu'un d'autre. Deux témoins. Mais en tout cas, en début du mois, la lune, elle n'est pas pleine. Et donc ici, dans ces psaumes, on lit les deux notions, les jours de nos fêtes et les jours du mois. Le jour du mois, il s'appelle ici Kese. Kese, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs significations, mais parmi les significations, c'est lorsque c'est caché. Ça veut dire la lune est encore cachée. Et même lorsqu'on la voit, mais elle n'est pas en plénitude, mais en tout cas, à ce moment, au début de l'année, au début du mois, la lune est cachée. Maintenant, il y a 12 mois ou 13 mois dans l'année, mais les jours de l'an, c'est là où on sent plutôt cette notion que la lune est cachée, ça veut dire tout est caché. L'idée de Rosh Hashanah, On a l'idée principale, ça veut dire ce qui va se passer, comme dans la tête, tout le corps est dirigé par la tête et pourtant la tête est bien protégée, elle est cachée, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est ça qui influence le corps. Là aussi, il y a un petit peu ça l'idée qu'au moment de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses qui ont été données, prévues, mais on va les découvrir, on va les voir, on va les sentir au moment de Sukkot. Donc, selon cette idée, Sukkot, c'est le développement de Rosh Hashanah et Kippour. Et on a beaucoup parlé autour de cette idée, on n'a pas touché d'autres sujets, donc c'est pour ça que je vais, même si le sujet n'était pas assez abordé, mais je vais aller vers l'autre idée encore importante que d'expliquer dans la Chassidut, c'est que pendant tous ces mois, on parle beaucoup d'unité. Le jour de Rosh Hashanah, il y a quelque part, on parle beaucoup d'unité de telle manière que les différences sont effacées. Quand quelqu'un qui arrive, on est en train de construire un gouvernement. Alors tout d'abord, on est en train de construire un gouvernement. Alors à ce moment-là, en fait, peut-être c'est pas correct, mais j'essaie de donner un exemple. Peut-être l'exemple n'est pas tout à fait correct, mais en tout cas, au début de ce gouvernement, chacun, on sent qu'on fait partie d'un gouvernement. On voit pas encore les différences. Et les différences entre l'un et l'autre. Les différences viennent plus tard. Le jour de Rosh Hashanah, on parle plutôt de cette notion qu'on est, réunis autour d'une idée, autour d'une nouvelle année, etc., etc., d'autres idées de Rosh Hashanah. Mais cette union ne peut pas durer parce que, pourquoi on est unis? Parce qu'on efface les différences. Mais on ne peut pas effacer les différences à toujours, parce que finalement, il y a une différence. On est différent, on est très différent. Il faut développer les différences. Le fait de Sukkot, plutôt, on est dans le même esprit d'union, mais l'union dans les différences. D'une part, la Sukkah, elle réunit des personnes différentes. Ça, c'est un petit peu l'idée de Sukkot. Et ensuite, avec les Lulav, on prend quatre espèces qui représentent quatre natures différentes. Et on les met ensemble. Alors, dans la Chassidut, on explique que chacun de ces quatre espèces représente une idée de différence, comme le cédra qu'il pousse toute l'année sur l'arbre. Ça veut dire qu'il grandit de toutes les différences entre hiver et été, contrairement à d'autres fruits que ça ne marche pas comme ça. Le loulav, sa forme, c'est une idée de différence, de différentes feuilles, mais ils vont dans la même direction à tel point que ça devient parfois un bâton, donc une notion d'union, etc., etc., pour les autres espèces, et chacun dans son niveau, sa nature. Mais l'idée, c'est qu'on est déjà, on commence à sentir, puisque l'année a commencé déjà depuis 2 semaines, dans les jours de Rosh Hashanah et Kippour, on était plutôt dans l'esprit qu'on est unis, on a rejeté les différences, on a mis de côté les différences. Le jour de Sukkot, on commence, puisque le monde ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de différence. L'idée, c'est que malgré les différences, et avec les différences, on est unis. Mais ce n'est pas facile, comme on le voit. Donc, alors, le jour de Sukkot, qui, quelque part, c'est le moment où on est en train de préparer l'année, alors on est déjà dans les différences, mais les différences, l'union donne les différences. C'est pour ça qu'on fait des différentes choses qui montrent cette idée qu'on est différent et pourtant, on a l'union dans les différences. C'est ça qui donne la force ensuite dans l'année que malgré les différences, avec les différences, on va être unis. Encore une idée autour de cette même idée, mais là aussi, toutes ces idées ont besoin d'explications. Là, on reste dans le flou et l'idée générale. Ce qu'il est marqué que la Sukkah, ça montre, comme on a parlé tout à l'heure, de l'idée de union, la Sukkah représente une idée de paix. Donc, union, c'est la paix. La paix, ce n'est pas facile. On le sait, on le voit pour de différentes raisons. C'est pas facile. De paix, lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est pas facile d'avoir la paix, même à la maison, parfois. Une grande famille, et on n'arrive pas à cohabiter. Et parfois. Si on est intelligent, on arrive à cohabiter malgré les différences. Mais on voit que la paix, c'est quelque chose de très très compliqué. On peut arranger les choses de ne pas voir l'autre, donc il ne me dérange pas. À ce moment-là, je veux en paix avec lui. Mais ce n'est pas la paix qu'on parle ici. La paix qu'on parle ici, c'est qu'on est différent et pourtant on vit dans la paix. Et ça, c'est parmi les choses de Sukkot En fait, encore une fois, on était dans l'idée, on n'a pas expliqué. La fête de Sukkot, c'est comme d'ailleurs, on compare la Sukkah à l'arche de Noé, que là-bas aussi, il y avait une notion de cohabitation. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses sans beaucoup détailler, mais en tout cas, on est dans une période très joyeuse. Et une période de Sukkot. On vous est invité à participer aux différentes choses de Sukkot. Si vous ne savez pas comment et où, téléphonez-nous. En tout cas, la fête de Sukkot, c'est la fête où on mange dans la Sukkah, c'est la fête où on secoue les loulaves, donc ces quatre espèces. Et c'est la fête où on est joyeux, c'est la fête où on essaie de mettre en place. Et les notions de la paix entre nous et qu'Hachem fasse, que Dieu fasse, que le monde il va trouver sa dignité, sa paix. Et ça, c'est le rêve messianique. Merci et Chag Sameach. Bonne fête.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.